Moi, je chante comme je parle. J'ai quand même envie d'avoir cette spontanéité naturellement, de la garder. J'aime bien mêler l'utile à l'agréable. Je pense que quand on travaille, il faut quand même apprendre tous les jours, que ce soit des partenaires, des gens qu'on rencontre, et surtout être curieuse. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Je ne pense pas avoir la science infuse surtout. Donc, ouais, ça me permet d'aimer chaque moment, à chaque fois.
Curieuse, spontanée, aimant la vie, Aya Nakamura façon autoportrait, féministe, griotte internationale, c'est dans le dictionnaire Aya Nakamura. Et oui, elle a déjà un dictionnaire, rien que pour elle, un dictionnaire conçu par Ismaël Mereghetti. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Audacieux de faire un dictionnaire sur cette chanteuse star, certes, mais chanteuse, d'ailleurs, ça pourrait être la première entrée de ce livre, audacieuse, non ?
C'est vrai, alors j'avais le choix avec Académie française et Aulnay-sous-Bois, je trouvais que ça en jetait pas mal aussi, mais audacieuse, effectivement. Peut-être audacieux de faire un dictionnaire, mais à mon sens nécessaire, au sens où l'idée m'est venue il y a quelques mois, au moment de toutes les polémiques à Roland Raciste qui ont accompagné l'annonce de sa possible participation aux Jeux Olympiques. Et je me suis dit, cet artiste qui connaît un succès phénoménal depuis une dizaine d'années en France, qui fédère des millions de gens de culture, d'âge, d'horizons totalement différents, est encore victime d'énormément de polémiques et de débats profondément injustes selon moi, sur la qualité de sa musique, sur son art, sur sa créativité. Et je me suis dit, au moment où elle va représenter la France, le pays au JO, il était l'occasion de m'intéresser précisément à ce qui fait la valeur de sa musique, sa personnalité, son parcours.
Et ça commence donc par Académie française. Et d'ailleurs, pour la cérémonie des JO, elle était devant l'Académie française, devant la coupole.
C'est même plus que ça. Elle est sortie de l'Académie française. Elle a traversé le pont des arts, tout un symbole, pour rejoindre la garde républicaine, symbole du pouvoir de l'État aussi. Et je trouvais qu'après tout ce qui s'était passé, toutes les polémiques qui l'avaient entourée, c'était un symbole très fort. Et petit détail à noter, ça robe qu'elle porte tout de jaune vêtu comme ça et symbolise un phénix, donc le phénix qui renaît de ses cendres après tout ce qu'elle a vécu.
Alors on reviendra sur cette polémique, Ismaël Mereghetti, mais incontestablement c'était un pied de nez, et c'est un pied de nez même ce dictionnaire à tous les mal-pensants, non pas les bien-pensants mais les mal-pensants, et vous dites d'ailleurs dans votre dictionnaire que l'adjectif qui lui convient le mieux ce serait populaire.
Ouais, j'ouvre le texte avec celui-ci, avec le mot populaire. Pour moi, elle représente... Alors, sa musique est populaire au sens où il y a une efficacité qui permet de toucher un public extrêmement vaste, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. On entend sa musique dans des fêtes de village de n'importe quel département français, comme dans les soirées d'écoles de commerce parisiennes. Il y a vraiment un peuple Aya Nakamura. Et je trouve qu'elle incarne aussi les divisions du peuple français actuellement. Il y a autant de gens qui l'aiment qu'ils la détestent, et il y a beaucoup d'incompréhension de la part des gens, des mal-pensants dont vous parlez, sur ce qu'elle est, ce qu'elle incarne.
Alors comment vous avez travaillé pour ce livre qui se nomme Dictionnaire critique, mais en fait qui est plutôt un abécédaire de A Académie à Zouk. Vous avez rencontré Aya ou vous avez lu, relu ses interviews, ses chansons ?
J'ai travaillé tout d'abord sur de la documentation, effectivement. J'ai lu, regardé tout ce qui avait été fait sur elle en France, à l'étranger, toutes ses interviews, une manière de rentrer dans sa tête aussi, tout ce qu'elle a pu dire depuis des années, même avant un peu son succès national. Et il se trouve que dans ma profession de journaliste aussi, j'ai côtoyé ces dernières années des gens qui avaient travaillé avec elle, que ce soit des compositeurs, que ce soit des photographes, des réalisateurs de clips, des gens qui s'occupent de ses lives, de ses concerts. Donc j'avais aussi de la matière de ce côté-là. Je ne l'ai pas rencontrée spécifiquement. L'idée était de la traiter comme un sujet culturel à part entière. On peut s'intéresser à elle sans parler forcément.
Mais elle donne peu d'interviews quand même. Et d'ailleurs, si elle écoute RFI, Aya, Aya, je n'attends qu'un oui de votre part. Alors, plein d'anecdotes quand même dans cet abécédaire ou de ce dictionnaire. Par exemple, à 13 ans, elle prend sa brosse à cheveux pour un micro et chante devant sa glace.
Comme beaucoup de jeunes filles.
Mais elle écrit sa première chanson à 16 ans.
C'est moins fréquent. Ce qui m'a beaucoup intéressé en me documentant sur elle, c'est effectivement cette vocation qui est très jeune. Par exemple, son premier album qui s'intitule Journal Intime reprend des textes de son réel journal intime qu'elle a écrit à 14-15 ans. Et quand on voit les textes que ça donne, c'est assez bluffant, mine de rien, de maturité et de vision artistique. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Elle a ça en elle depuis très jeune.
Et elle écrit beaucoup, notamment dans ce journal et pour ses chansons, avec une langue très particulière. Quand elle dit « je chante comme je parle », qu'est-ce que vous en dites ? C'est vrai, c'est plus sophistiqué que ça quand même.
Oui, c'est plus sophistiqué que ça. Mais en fait, elle a la volonté de faire une écriture réaliste, une écriture du quotidien. Alors, là où elle est humble dans cette formulation-là, c'est que, bien sûr, ça dépasse un langage commun. Elle crée ce que j'appelle dans le livre, et c'est pas moi, je reprends les termes de linguiste, de sociolinguiste, elle crée ce qu'on appelle une outre-langue. Cette outre-langue qui est juste une métamorphose du français qui s'inspire de beaucoup de choses, qui s'inspire de termes de langues africaines, qui s'inspire même d'argot de certaines langues africaines, qui va chercher du côté de l'Amérique latine, du côté de l'Amérique du Nord, de l'arabe, du langage très jeune de quartier, et puis qui va aussi s'intéresser à des mots d'ancien français. Elle mélange tout pour créer une nouvelle sonorité.
Et vous détectez ça dès le premier tube, avec cette formule « être en comportement ».
Être dans son comportement.
Dans son comportement, ouais. Qui n'est pas du tout français. Et pourtant...
Alors, évidemment, en fait, ça a choqué beaucoup, parce qu'on a tout de suite dit « c'est pas français, c'est pas la bonne syntaxe, on n'est pas dans son comportement ». Et en même temps, qu'est-ce qui reste des années après ? Pour moi, c'est une licence... Bah, je ne veux pas en faire trop, mais c'est une licence poétique. Elle a cassé un code, à un moment donné, qui est resté dans les têtes. Tout simplement.
De Pouki à Djadja en Katshana, la langue de Aya, et on n'est pas au bout de nos surprises, mais pour l'heure, l'actu discographique, c'est le nouvel album de Youssoupha, Amour suprême, et cette chanson, Grand Boubou des ancêtres.
Nine révolution, noire excellence, amour suprême. On va célébrer. Même à l'occasion de rien, on va célébrer. Dingari Flow, Kinshasa Karma. Rêve de belles plages en Martinique. Serre un pan de Star Martini. Chez moi, le stress est inutile comme le pied gauche à Platini. Sur un yacht vers Assini, j'ai dit coucou, la vie de rêve. C'est vrai, j'ai quitté Paris et ma doudoune à Virex. Coudoule en direct, devenir l'homme que j'ai envie d'être. Une main pour l'or, une main pour l'art, je suis ambidextre. Je suis pas bandit peut-être, je sais que c'est rageant. Ça sert à quoi d'acheter une fausse montre avec du vrai argent, Renoir? Je guette mes finances, faut marger sur tous les prix. Je gère mes silences car la musique est le plus cher de tous les bruits. Bref, faut pas que le butin dorme. C'est pas une demande, c'est un putain d'ordre. Nos darons cachent l'oseille dans leur soutien-gorge. Moi je suis une légende, gamin, va te renseigner. Les hommes éclairés aiment apprendre, les imbéciles aiment enseigner. Yeah, à moi tout seul, je rappe mieux que ton crew de rappeur. Je suis Michael Jackson, version négro avant Moonwalker. Prince, culture, gratitude et grandeur. J'ai ressenti les grands boubous des ancêtres. Il est l'heure de quitter le hall sur ma Oyster Perpetuo. J'ai ressenti les grands boubous des ancêtres. Check les boutons sur les manches, check les Air Force One blanches. J'ai ressorti les grands boubous des ancêtres. Lumière sur vous. J'ai ressorti les grands boubous des ancêtres. J'suis dans l'arène et c'est la corrida. Putain, c'est moi le taureau. J'préfère les Cohiba au Marlboro. La concurrence, ah ouais, j'ai mal pour eux. Que Dieu me conserve. J'ai tellement fumé de scène, j'pourrais mourir d'un concert. J'prépare mon best-of. J'écoute du Migos, ça me restaure. Ça m'aide à l'éviter. RIP Takeoff. Une seule vie et j'suis à la bourre. Je sors mon 7e album, ça m'en fait 39 de moins que Jules. Mais j'ai toujours le juice. Jaquette Kenzo, vise la Ferrari Enzo pour sortir de la friend zone. Bébé, faut du miel, je rappe et je produis même. Ojimène qui avance masqué à la Ozymène. Cauchemar de l'Occident, la terre n'est pas aussi grande. Alors je suis parti en Afrique avec ma Foxy Brown. Ensemble, tout ce qu'on a commis, mon cœur à l'agonie. Je suis trop connu pour finir comme alcoolique anonyme. Prince, culture, gratitude et grandeur. J'ai ressorti les grands boubous des ancêtres. Il est l'heure de quitter le hall sur ma Oyster Perpetuo. J'ai ressorti les grands boubous des ancêtres. Check les boutons sur les manches, check les Air Force One blanches. J'ai ressorti les grands boubous des ancêtres. Lumière sur vous. On dit quoi ? J'ai ressorti les grands boubous des ancêtres.
Youssoupha sur RFI à l'occasion de son nouvel album, Ismaël Mereghetti. Je suis pas très connaisseur, mais il y a eu aucune collaboration entre lui et Aya Nakamura, à ma connaissance.
Non, aucune.
Alors, en revanche, vous laissez entendre qu'elle pourrait sortir un titre prochainement avec sa mère et sa fille. Et ça, c'est à l'entrée griotte de votre abécédaire, de votre dictionnaire. Elle s'inscrit vraiment dans la tradition des griots pour vous ?
Complètement. complètement. C'est une tradition qui est très forte, notamment au Mali, son pays d'origine. Elle est née à Bamako. Sa mère était griotte. Donc, rapidement, les griots, c'est des conteurs d'histoire, et qui peuvent avoir une fonction juste narrative, comme une fonction sociale aussi, et qui ont l'habitude de créer de la mélodie presque en improvisant aussi sur des choses qu'ils peuvent voir dans leur quotidien. Et donc, la mère d'Aya est griotte. Ça se transmet littéralement par le sang. Donc, Aya est techniquement griotte.
D'où le goût des mots.
Ah, d'où le goût des mots, d'où le goût aussi, pardon, de ce qu'on disait tout à l'heure, l'écriture réaliste. C'est typiquement la mécanique des griots. Et donc, Aya est griotte.
Et si on parle de musique, est-ce qu'elle expose dans la musique les codes de la même manière qu'elle les expose dans l'écriture? Vous la classez dans quelle catégorie, Aya Nakamura? Ouais, vous dites zouk.
Oui, alors...
On est déjà à la lettre Z.
Oui, on est déjà à la lettre Z. En fait, il y a eu beaucoup de méprise sur ce qu'elle était. Comme c'est une femme noire qui vient de quartier, elle vient d'Aulnay-sous-Bois, on l'a souvent étiquetée comme rappeuse. Elle n'a jamais fait de rap. Le rap, ce n'est pas ça. C'est une chanteuse, déjà. Et ensuite, on l'a assimilée à ce qu'on appelle le R&B. En réalité, elle est au carrefour de plusieurs influences. Elle est au carrefour du zouk et des musiques caribéennes. Elle va aussi chercher des sonorités du côté du Nigeria et de ce qu'on appelle l'afrobeat moderne.
La
lettre N, Naija Music, pour la musique du Nigeria. Et puis, elle peut se nourrir de phrasés, parfois inspirées du hip-hop, inspirées également de la chanson française. Elle est vraiment à la confluence de tout ça. Et en fait, elle est à l'initiative d'une vraie révolution musicale. Ce qu'elle fait n'existait pas avant en France.
Et voilà ce qu'elle en dit.
C'est un mélange de là où j'ai grandi et mes racines, tu vois, où j'ai grandi dans la street et en même temps, à la maison, il y a de la musique africaine, tu vois. Et c'est ce mélange qui est fort. Aujourd'hui, on a plein de nouveaux mots tout le temps. Moi, quand j'écoute des sons des States, il y a plein de nouveaux mots, tu vois. On n'utilise pas tout le temps le langage de Molière.
Là j'ai pas le time pour toi, c'est pas fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bail là, c'est pour les mecs comme ça. Tacler pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer crack. Pour les bons boys, ça va grave qu'est crack. Je crois que c'est leur ding dong. Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Ouah, tu sais ton os, tes livres adorables. Pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras, darling. Love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You're the one for me, for me, for me, for me, darling. Je suis gang, oh, gang, boy, ne joue pas bang, bang, bang. Je suis gang, oh, gang, boy, ne joue pas bang, bang, bang.
Ismaël Mereghetti, dans votre dictionnaire, vous décryptez la langue de Aya Nakamura. Et Pookie est révélateur. Cette chanson, pour vous, raconte tout, est un condensé, un concentré de l'écriture et de la musique de Aya Nakamura.
Oui, parce qu'en fait, en quelques phrases, ce qu'il faut comprendre, c'est que Aya, on a souvent dit, pour la mépriser, pour la reléguer au rang de sous-culture, on a souvent dit « Aya, c'est pas Baudelaire ». Aya n'a jamais prétendu être Baudelaire. Personne, d'ailleurs, n'a jamais voulu lui coller cette étiquette. Aya, elle fait de la musique, déjà. Donc, elle crée une langue qui a vocation à être mise en son, mise en intonation, mise en mélodie. Et pour ça, pour créer cette efficacité musicale-là, cette alchimie, eh bien, elle va mettre des mots à l'envers, créer des assonances, des allitérations en prenant des mots de l'ancien français, puis un mot latino, puis un mot arabe. Et tout ça va faire une juxtaposition qui va dégager une énergie. Parce que ce qu'elle fait, c'est que cet assemblage de mots qu'elle brasse, percute le cerveau et on se dit « Ah oui, on n'avait jamais vu, jamais entendu ça comme ça ». Elle arrive à faire sonner le français.
Mais si on regarde très précisément les textes de ses chansons, c'est une langue aussi très référencée. Oui. D'abord, c'est rimé et puis il y a des associations surprenantes. Vous dites les mots d'ancien français, c'est vrai que pipelette, pépette, etc. Elle fait plus que les académiciens français pour réanimer ces mots anciens.
Évidemment, par exemple, dans le tube planétaire maintenant, Dja-Dja, il y a à la fois le mot Kachana, qui en fait n'est quasiment pas référencé, c'est presque une invention de sa part, et puis, quelques lignes plus tard, le mot Katin, qu'on trouve dans le dictionnaire de l'Académie française. Dans le morceau Pookie que, dont vous avez diffusé un extrait, il y a évidemment le mot pipelette, référencé depuis plusieurs siècles. Et puis, à un moment, elle va employer le mot Pookie, qui est de l'argot gitan. Donc,
et qui veut dire balance.
Qui veut dire balance, voilà. Mmh. Et en fait, ces associations-là créent ce qu'on appelle presque des punchlines dans la culture hip-hop, c'est-à-dire des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui viennent fracturer le cerveau.
My corazón, I love you trop.
Mi corazón, I love you trop, effectivement. Et à chaque fois, en fait, c'est là où elle arrive à nous surprendre. Et c'est là où je dis qu'elle a une sorte de poésie en elle. Encore une fois, l'enjeu n'est pas de dire que c'est Baudelaire. Elle fait de la musique. Mais elle casse des codes qui touchent les cœurs.
Mais alors, comment comprendre que tous ses détracteurs lui reprochent de ne pas parler français, alors que si on écoute, si on regarde précisément, on voit bien que ce n'est pas le français des best-sellers que l'on trouve dans les grands magasins, mais qu'il y a une inventivité de la langue.
Pour moi, si, mais ce n'est que mon avis, ces gens-là, ces détracteurs-là, il y a une part de racisme, en réalité. Parce que c'est trop facile de reléguer ce qu'elle fait au rang, comme je le disais tout à l'heure, de sous-culture. Et on n'a jamais... on ne s'est jamais intéressé au texte de n'importe quel artiste de variété française pour dire ce n'est pas du français, ou très rarement. Effectivement, dans le livre, dans le dictionnaire, je fais référence, et elle-même y fait référence, à Piaf ou à Charles Aznavour. En 63, quand Charles Aznavour fait Formi Formidable, évidemment qu'il emploie des mots anglais, Piaf condensait les mots. Et on ne s'est jamais posé plus de questions que ça.
Mais les détracteurs de Piaf disaient qu'elle était extraordinairement vulgaire et qu'il ne fallait surtout pas écouter cette catin.
Exactement, mais je pense que l'histoire et le temps fera son affaire.
Alors, dans cette émission, c'était juste avant les JO, elle avait trouvé un défenseur acharné en la personne de Bernard Cerchiglini, dont il faut faire le CV pour comprendre son appréciation. Agrégé de lettres, prof de linguistique, ancien délégué général à la langue française et aux langues de France, ancien directeur de l'enseignement primaire à l'éducation nationale, mais aussi président en son temps de l'Observatoire de la lecture, mais aussi chroniqueur sur DV5 Monde, membre de l'Académie royale des lettres de Belgique et de l'Oulipo, Cerchiglini donc, et on pourrait rajouter encore des titres, qui validaient le choix de Haya pour la cérémonie d'ouverture des JO.
C'est un excellent choix. J'aime ses chansons, j'aime ce qu'elle fait, j'aime son usage de la langue, d'une langue française vivante, qui ne craint pas d'emprunter des termes à des langues africaines, qui ne craint pas de jouer, de se moquer. Que lui reproche-t-on ? De chanter une langue moderne ? D'être la chanteuse la plus connue et écoutée depuis Edith Piaf ? Ou le reproche-t-on la couleur de sa peau ?
Vous êtes un fan ?
Je suis.
Hypé pourtant, c'est un anglicisme.
Bien sûr, mais elle en joue. Je suis dead de ça. Bien sûr, c'est pour se moquer.
Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui m'échappe. Tu me dis que je fais du sale. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je racolais.
Il a la digue facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10.
Je suis bien hyper. Hyper, 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 hyper. It's all over, ça y est. Hyper, hyper, hyper.
Ismaël Merighetti, la dimension raciste donc des attaques qu'a dû essuyer Aya Nakamura est absolument évidente. Vous vous dites dans cet abécédaire, dans ce dictionnaire, pardon, qu'elle est victime de misogynie noire.
Je suis très content d'avoir pu mettre ce mot-là, qui est un concept qui existe depuis des années aux États-Unis, qui a été théorisé par des universitaires et qui frappe beaucoup de gens ici en France, mais qui n'était pas connu dans son explication linguistique. Misogynoir, c'est le croisement de deux discriminations qui concernent donc les femmes noires. Croisement de la misogynie et du racisme. Et Aya est même à l'intersection d'une troisième discrimination qui est le colorisme, qui est plutôt une discrimination intracommunautaire qui vise les femmes à la peau très foncée. Effectivement, j'explique que en France, notamment le traitement médiatique qu'elle a reçu depuis au début de sa carrière fait qu'elle a eu des articles dans le New York Times avant d'avoir des articles dans Le Monde. Il y a un mépris et des étiquettes qui sont collées aux femmes noires à la peau foncée dans l'industrie culturelle et plus largement dans l'industrie artistique et qui confinent au mépris.
Alors, raciste et inculte, ça va souvent de pair, qui lui disait qu'elle n'était pas sur un marché à Bamako. Ça, c'était une banderole qui avait été dépliée au moment des JO, juste avant. Il faut aussi rappeler que son nom n'est pas du tout malien, mais japonais.
Ah oui, effectivement, son nom de scène. Alors, son vrai nom, c'est Aya Danyoko, qui, pour le coup, est un patronyme malien. Mais Nakamura reprend un personnage d'une série télévisée. Et effectivement, ce Nakamura, ce Hiro Nakamura, qui a le pouvoir de se déplacer dans l'espace-temps, de contracter l'espace-temps, est d'origine japonaise.
Aya, qui a aussi dans son fan club, on a entendu Serge Kiglini à l'instant, elle a aussi dans son fan club l'écrivaine Fatoudium.
Elle a costumisé la langue française et l'a pliée à son rythme à elle, et je trouve ça très dynamique. Dansons avec elle.
Il me dit comment tu bombes, comment tu fais la meuf, mais on dirait que tu kiffes le mood. Il me dit comment tu bombes, 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 tu bombes.
Ismaël Merighetti, dans votre dictionnaire, vous citez Roland Barthes qui parlait d'un dictionnaire comme d'une machine à rêver. Il y a fort à parier que s'il vivait encore, il aurait inscrit Aya dans ses mythologies aux côtés de, on va pas parler de l'abbé Pierre, mais de Brigitte Bardot.
Oui, on va pas parler de l'abbé Pierre. J'en suis sûr. En fait, Aya est un phénomène de notre société. Elle en dit beaucoup. C'est un reflet de plein de choses. Je l'évoquais tout à l'heure, de notamment nos clivages politiques, sociaux. Et je pense que si Roland Barthes était encore avec nous aujourd'hui, elle en ferait largement partie.
Mais vous dites, elle représente la France d'aujourd'hui et de demain. Oui. Vous en êtes sûr ?
L'histoire nous le dira. En réalité, moi-même, je suis très curieux de continuer à observer, analyser la trajectoire qu'elle prendra par la suite. Ce qui est sûr, c'est que sur ces 10 dernières années, c'est une évidence. Elle représente cette France.
Et dans 30 ans, à l'Académie française, on revient à la lettre A.
Non, je pense pas. Et je pense qu'elle en a justement pas du tout la vocation. Ça reste une chanteuse, une artiste qui nous fait vibrer. Et la seule vocation qu'elle a, c'est de nous faire danser, de susciter des émotions.
Ni bébé, ni Aya, mais bon, avec un certain charisme, je vous présente Lucie Bouteloup. C'est l'heure de la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Bon, vous n'êtes pas tout à fait Aya, vous m'en voudrez pas, mais pour moi quand même, un peu quand même notre star.
Waouh. Bon, on va dire que j'essaie de tirer mon épingle du jeu comme je peux. Tirer,
comme d'habitude.
Ouais. Tirer son épingle du jeu, donc en voilà une expression qui a du piquant. Alors on en parle dans quelques instants avec Benjamin Roussel. Il est lexicologue aux éditions du Robert, mais avant Pascal, comme d'habitude.
Bien les enfants.
Pour moi, tirer son épingle du jeu, ça veut dire, par exemple, je suis en train de jouer au Uno et je pioche une bonne carte, je vais la garder pour la fin pour avoir plus de chances de gagner.
Je pense que ça veut dire renoncer à continuer, abandonner. Moi, je pense que tirer son épingle du jeu, ça veut dire renonces, mais en renonçant, ça te fait mal parce qu'une épingle, ça peut piquer.
Ça veut dire tricher, parce que parfois dans les escape games, faut ouvrir les portes et tu triches en prenant ton épingle sans trouver la clé. Au lieu de trouver la clé, tu ouvres la porte avec une épingle.
Si par exemple t'essayes d'enlever tes poux des cheveux et en fait t'essayes avec le pagne donc ça marche pas et tu essayes en mettant des épingles dans tes cheveux et là ça marche parce que ça les dérange.
Bonjour Benjamin.
Bonjour Lucie.
Alors, une réaction aux propositions des enfants, ça pique une épingle.
Ça pique.
Est-ce qu'ils sont dans le vrai quand ils essayent de crocheter la porte?
Alors,
ils essayent de tricher.
Oui, on était un peu loin avec l'escape game ou avec les poux dans les cheveux. J'ai retenu quand même l'hypothèse de l'un des enfants qui a avalé avec le jeu Uno, le fait de garder une carte jusqu'à la fin. Là on était pas mal. Là, on commençait à s'approcher un peu.
Qu'est-ce que ça veut dire cette expression, tirer son épingle du jeu?
Alors, c'est se dégager adroitement d'une situation délicate. C'est quand on, dans un contexte, même dans un contexte un peu difficile, on arrive à rencontrer
rencontrer un succès, à se tirer d'affaires. Là, on peut dire qu'on a tiré son épingle du jeu.
Peut-être un peu avec aussi cette idée de au dernier moment, quoi. On arrive in extremis à se sortir d'un mauvais pas.
Oui, à chaque fois, c'est ça. C'est vraiment se retirer à temps quand ça devient un peu difficile.
Alors, cette expression, elle date de quand ?
Elle date du XVIe siècle. Mmh. Alors, il y a plusieurs hypothèses un peu semblables. Et ce dont on est sûr, a priori, c'est que ça vient d'un jeu d'enfant.
Alors, ce jeu, ça s'appelle donc la pousse aux épingles, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ?
Alors, c'est un jeu qui était surtout, on dit, pratiqué par les petites filles. Mmh. Et donc, il consistait à tracer un rond sur le sol. Et ensuite, chaque jeune fille plaçait une épingle. À l'époque, il faut se dire qu'une épingle, ce n'était pas rien. Ça avait quand même un certain prix. C'était un objet métallique. Et donc, on pouvait le mettre en jeu. C'était un peu comme une mise. Et donc, ensuite, chaque petite fille devait lancer la balle contre le mur d'en face, un peu comme au squash aujourd'hui. Et donc, sauf qu'il fallait faire revenir la balle dans le rond pour faire sortir les épingles du cercle. Et donc, si l'une des joueuses réussissait à faire sortir au moins une épingle, on disait qu'elle avait tiré son épingle du jeu, retiré son épingle du jeu, et donc elle pouvait continuer à jouer.
Alors, je pense que pour bien comprendre cette expression, il faut s'intéresser au verbe tirer. Tirer, ça veut dire extraire, et ça veut aussi dire se tirer d'un mauvais coup. On utilise le verbe, par exemple, dans l'expression se tirer d'affaire.
Oui, c'est ça, hein, c'est un peu le synonyme de tirer son épingle du jeu. Ça fait aussi penser à tirer profit, et même avec la notion d'argent. Parce qu'avec ce jeu, des petites filles qui mettent en jeu leur épingle et qui les retirent du jeu, ça, on a vraiment le sens de sauver sa mise, donc la somme qu'on a mise en jeu.
Et puis vous l'évoquiez tout à l'heure, l'épingle, c'est pas un objet qui est anodin, c'est un objet qui a donc une certaine valeur et elle a aussi une connotation d'attachement. Donc tirer son épingle, il y a l'idée de se dégager de ce qui attache, de ce qui retient.
Oui, et d'ailleurs, parfois, on peut rencontrer cette expression uniquement sous la forme « tirer son épingle ».
Alors, pour les synonymes de tirer son épingle du jeu, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien s'en tirer, sauver les meubles peut-être ?
Sauver les meubles, oui. Alors, sauver les meubles, ça serait vraiment dans une situation catastrophique, sauver un petit quelque chose, quoi. Sinon, oui, on a beaucoup parlé de se tirer d'affaires, sauver sa cause, reprendre ses billes aussi.
On sauve ses fesses, on sauve sa peau.
Exactement, oui.
Nous voilà donc tirés d'affaires. Merci Benjamin Roussel pour vos éclairages. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette puce ainsi que toutes les précédentes sur le site françaisfacile.rfi.fr mais aussi sur le blog des éditions Le Robert. Dis-moi Robert, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, autour d'une nouvelle expression en votre compagnie. À bientôt Benjamin.
Merci Lucie.
Merci Lucie, merci à vous Ismaël Mereghetti. Est-ce qu'on peut dire que Aya a bien tiré son épingle du jeu ?
Ah, complètement. Moi, comme un symbole, le dictionnaire donc, s'ouvre avec l'Académie française et l'article suivant, c'est Aulnay-sous-Bois, comme pour montrer tout le chemin parcouru par cette femme seule qui, et je le dis dans le dictionnaire, mettait déjà 45 minutes pour ne serait-ce qu'atteindre la gare d'Aulnay-sous-Bois, parce qu'elle vient du quartier des 3000, quartier particulièrement enclavé et loin, et qui, quelques années plus tard, très peu d'années plus tard finalement, réussit à remplir en à peine 15 minutes 3 Bercy. Voilà.
Et puis elle tire son épingle du jeu parce qu'elle est une égérie de la mode et elle a été invitée l'an dernier au Met Gala à New York et apparemment c'est la consécration.
Et il n'y a que très très peu de femmes et d'hommes qui sont invités là-bas. Les précédentes, ses prédécesseurs étaient Isabelle Huppert par exemple. Donc elle rentre dans une catégorie de star internationale.
Top. Je dirais même topissime. Merci Ismaël Mereghetti, le dictionnaire critique Aya Nakamura est publié aux éditions La Thèse dans la collection La Grenade. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et nous nous retrouvons demain depuis Dakar, Sénégal. À demain.